Chapitre 21 à 23. Les ordonnances. Justice de Dieu et corruption de l'homme. L'étude de cette partie du livre de l'Exode est propre à remplir le cœur d'admiration en présence de la sagesse et de la bonté de Dieu. Nous sommes rendus capables de nous former quelque idée d'un royaume gouverné par des lois établies par Dieu, en même temps que nous apprenons à voir sa merveilleuse condescendance. Bien qu'il soit le grand Dieu du ciel et de la terre, il peut néanmoins s'abaisser jusqu'à juger entre homme et homme au sujet de la mort d'un bœuf, chapitre 22, verset 10, du prêt sur gage d'un vêtement, verset 26, ou de la perte de la dent d'un esclave, chapitre 21, verset 27. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il s'abaisse pour regarder dans les cieux et sur la terre. Il gouverne l'univers et s'occupe du vêtement d'une de ses créatures. Il dirige le vol de l'aigle et prend connaissance du vermisseau qui rampe. Il s'abaisse pour régler les mouvements des astres sans nombre qui se meuvent dans l'espace et pour enregistrer la chute d'un passereau. Les ordonnances présentées dans le chapitre 21 renferment pour nous un double enseignement. Elles présentent à nos yeux un tableau à deux faces. Elles nous parlent de Dieu et de l'homme. Premièrement, quant à Dieu, nous le voyons décréter des lois d'une justice stricte et impartiale. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Versets 24 et 25. Tel était le caractère des statuts et des jugements par lesquels Dieu gouvernait son royaume terrestre d'Israël. Il avait pourvu à tout. Il faisait droit à chacun à tous égards. Il n'y avait aucune partialité, nulle acception de personne, nulle distinction entre riche et pauvre. La balance dans laquelle les droits de chacun étaient pesés était réglée avec une exactitude divine, en sorte que nul ne pouvait justement se plaindre de la décision. L'œil et la main du législateur divin prenaient soin de tout, et l'exécuteur divin traitait chaque coupable avec une rigueur inflexible. L'arme de la justice ne frappait que la tête du coupable, tandis que toute âme obéissante était maintenue dans la jouissance de tous ses droits et de tous ses privilèges. Secondement, pour ce qui concerne l'homme, il est impossible de parcourir ces lois sans être frappé de la révélation indirecte qu'elles renferment à l'égard de l'affreuse dépravation de sa nature. Le fait que l'Éternel ait dû promulguer des lois contre certains crimes prouve que l'homme était capable de les commettre. Si la tendance vers ces crimes n'avait pas existé chez l'homme, les lois n'auraient pas été nécessaires. Or, il y a un grand nombre de personnes qui, à l'ouïe des grossières abominations défendues dans ces chapitres, seraient portées à dire comme Azaël : « Mais qu'est ton serviteur, un chien, pour qu'il fasse cette grande chose ?» Deux Rois 8, verset 13. Mais ceux qui parlent ainsi ne sont pas encore descendus dans les profondeurs de leur propre cœur, car bien que quelques-uns des crimes défendus ici semblent placer l'homme, quant à ses inclinations, au-dessous du niveau d'un chien, ces statuts mêmes prouvent cependant que l'homme le plus cultivé porte en lui le germe des plus épouvantables abominations. Pour qui ces lois furent-elles données? Pour l'homme. Étaient-elles nécessaires? Sans aucun doute. Or, elles auraient été entièrement superflues si l'homme avait été incapable de commettre les péchés auxquels elles ont trait. Mais l'homme est capable de toutes ces choses, et ainsi, nous voyons qu'il est tombé le plus bas possible, que sa nature est entièrement corrompue, que du sommet de la tête à la plante des pieds, il n'y a rien de saint en lui. Voir Ésaïe 1, Romains 3, versets 9 à 18. Comment un être pareil pourra-t-il jamais se tenir, sans crainte, dans la lumière du trône de Dieu? Comment pourra-t-il subsister devant le Dieu saint? Comment entrera-t-il par les portes de perles et marchera-t-il dans la rue d'or de la Sainte Jérusalem? Apocalypse 21, verset 21. La réponse à ces questions révèle à nos yeux les merveilles de l'amour qui nous sauva et la puissance éternelle du sang de l'agneau. Quelque grande que soit la chute de l'homme, l'amour de Dieu est plus grand encore. Quelque noir que soit son crime, le sang de Jésus peut l'effacer parfaitement. Quelque large que soit l'abîme qui sépare l'homme de Dieu, la croix y a dressé un chemin. Dieu est descendu jusqu'au pécheur afin de l'élever à une faveur infinie, dans une union éternelle avec son propre Fils. Nous avons bien lieu de nous écrier « Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. » 1 Jean 3, verset 1. L'amour de Dieu pouvait seul sonder la misère de l'homme, et le sang de Christ seul surpasser sa culpabilité. Mais maintenant, la profondeur même de la ruine de l'homme magnifie l'amour qu'il a sondé et l'immensité du crime met en évidence la puissance du sang qui peut l'effacer. Le plus vil pécheur qui croit en Jésus peut se réjouir dans l'assurance que Dieu le voit et le déclare tout net. Jean 13, verset 10. Le serviteur hébreu. Tel est donc le double enseignement que l'on peut retirer de ces lois et de ces ordonnances quand on les considère dans leur ensemble. Mais plus aussi nous les examinerons en détail, plus nous en apprécierons la perfection et la beauté. Prenez par exemple la toute première de ces ordonnances, celle qui se rapporte au serviteur hébreu. Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 années, et la 7e il sortira libre, gratuitement. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui, il sortira seul. Mais si le serviteur dit positivement « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le fera venir devant les juges et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira à toujours. Chapitre 21, versets 2 à 6. Le serviteur était parfaitement libre pour ce qui le concernait personnellement. Il avait fait tout ce qu'on pouvait exiger de lui, et pouvait s'en aller où bon lui semblait. Mais par affection pour son maître, pour sa femme et ses enfants, il pouvait se soumettre volontairement à une servitude perpétuelle. Il allait alors porter dans son corps les marques de cette servitude. Le lecteur reconnaîtra facilement comment tout ceci s'applique au Seigneur Jésus. En lui, nous voyons celui qui était dans le sein du Père avant que les mondes fussent, l'objet de ses éternelles délices, et qui aurait pu, pour toute l'éternité, occuper cette place qui lui appartenait personnellement. Rien ne l'obligeait à l'abandonner, sinon ce qu'exigeait son amour ineffable. Mais tel était son amour pour le Père, dont il voulait accomplir les desseins et établir la gloire. Tel était son amour pour l'Église et chacun des hommes qu'il voulait sauver, qu'il descendit volontairement sur la terre. Il s'anéantit lui-même jusqu'à prendre la forme d'un serviteur et les marques d'une servitude perpétuelle, s'abaissant et se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Le psaume 40, verset 6, nous présente le Christ dans cette position d'obéissance. « Tu m'as creusé des oreilles. » Parole interprétée en Hébreux 10, verset 5 par « Tu m'as formé un corps. » Ce psaume 40 est l'expression du dévouement de Christ à Dieu pour faire sa volonté. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Versets 7 et 8. Il vint pour faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle fût. Il ne fit jamais sa propre volonté, pas même en recevant à lui et en sauvant des pécheurs. Bien que, sans aucun doute, son cœur aimant et toutes ses affections aient été en pleine activité dans cette œuvre glorieuse. Toutefois, il ne reçoit à lui et ne sauve que comme serviteur des conseils du Père. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jean 6, versets 37 à 39, voire Matthieu 20, verset 23. La position de serviteur que prend le Seigneur Jésus nous est présentée ici de la manière la plus intéressante. En grâce parfaite, il se considère comme responsable de recevoir tous ceux qui sont compris dans les conseils de Dieu, et non seulement de les recevoir, mais de les garder à travers toutes les difficultés et les épreuves de leur pèlerinage ici-bas, même au moment de la mort, si elle doit venir pour eux, et de les ressusciter tous au dernier jour. Dans quelle sécurité parfaite se trouve ainsi placé le plus faible croyant? Il est l'objet des conseils éternels de Dieu, et Jésus est le garant de leur accomplissement. Jésus aime le Père, et cet amour est la mesure de la sécurité de chacun des membres de la famille rachetée. Le salut du pécheur qui croit au nom du Fils de Dieu n'est, dans un sens, que l'expression de l'amour de Christ pour le Père. Si un seul de ceux qui croient au nom du Fils de Dieu pouvait périr, par quelque cause que ce soit, cela indiquerait que le Seigneur Jésus a été incapable d'accomplir la volonté de Dieu, ce qui ne serait rien d'autre qu'un blasphème positif contre son saint nom. Nous avons donc, dans le serviteur hébreu, un type de Christ dans son dévouement parfait au Père. Mais il y a plus que cela encore. J'aime ma femme et mes enfants. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Il y a plusieurs autres passages de l'Écriture qui nous présentent Christ comme l'antitype du serviteur hébreu, dans son amour pour l'Église comme corps, et pour tous les croyants individuellement. Le lecteur trouvera un enseignement spécial sur ce sujet en Matthieu 13, en Jean 10 et 13, et en Hébreux 2. La connaissance de cet amour de Jésus ne peut que produire dans nos cœurs un ardent dévouement pour celui qui a pu manifester un amour aussi pur, aussi parfait et aussi désintéressé. Comment la femme et les enfants du serviteur hébreu n'auraient-ils pas aimé celui qui, pour rester avec eux, renonçait volontairement et pour toujours à sa liberté? Et l'amour mis en évidence dans le type, qu'est-il en comparaison de celui qui brille dans l'antitype? L'amour du Christ surpasse toute connaissance. Éphésiens 3, verset 19. L'amour du Christ le porta à penser à nous avant la création des mondes, à nous visiter quand l'accomplissement du temps fut venu, à se rendre, de sa libre volonté, vers le poteau de la porte, à souffrir pour nous sur la croix, afin de pouvoir nous élever jusqu'à lui, pour faire de nous ses compagnons, dans son royaume et dans sa gloire éternelle. Je serais entraîné trop loin si je voulais faire une exposition complète des autres statuts et jugements contenus dans ces chapitres. L'examen des fêtes dont il est question au verset 14 à 19 du chapitre 23 sera plus à sa place quand nous en viendrons à l'étude du Lévitique. Je remarquerai seulement, en terminant, qu'il est impossible de lire ces passages sans que le cœur soit rempli d'adoration devant cette sagesse profonde, cette justice parfaite, en même temps que ces égards qui se montrent partout. Il laisse dans l'âme la conviction profonde que celui qui a parlé dans ces chapitres est le Dieu seul vrai et seul sage, le Dieu infiniment miséricordieux.